Bonsoir. L'injustice m'est physiquement intolérable. Toute ma vie peut se résumer à ça. Gisèle Halimi est décédée ce matin à Paris au lendemain de ses 93 ans. Nous reviendrons sur les combats de cette avocate, femme politique et écrivain. L'offre de reprise de l'enseigne de chaussures André validée par le tribunal de commerce de Grenoble. Une reprise dans la douleur, nous expliquera Adrien Toffolet. Les populations de poissons migrateurs comme le saumon en chute libre en 50 ans, c'est le résultat d'une enquête que viennent de publier 15 organisations de protection de la nature, en cause la surpêche, la pollution et les constructions de barrages. En Turquie, le plus haut responsable religieux sous le feu des critiques après la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, des opposants au pouvoir l'accusent d'avoir insulté le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, lors d'un sermon prononcé dans l'ancien musée.
On disait, nous restons dans le cadre de la loi, mais cette loi est injuste et désobéir à une loi injuste, ça n'est pas désobéir.
La voix de Gisèle Halimi qui évoquait l'un de ses nombreux combats, celui pour le droit à l'avortement, avocate, femme politique, écrivain, militante et combattante pour le droit des femmes. Gisèle Halimi s'est éteinte ce matin à Paris au lendemain de ses 93 ans, une vie entière consacrée à se battre pour des causes qui restent terriblement d'actualité.
Une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra à mon sens jamais. Elle entre dans une espèce de coma, quand une partie d'elle-même entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle, s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. L'enjeu, c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
L'injustice m'est physiquement intolérable, disait Gisèle Halimi. Toute ma vie peut se résumer à ça. Tout a commencé par l'arabe qu'on méprise, puis le juif, puis le colonisé, puis la femme. Une vie de combattante que nous résume Antoine Marette.
Et c'est en Tunisie que Gisèle Taïeb naît en 1927 dans une famille juive modeste et plutôt conservatrice. Contrairement à ses frères, c'est une élève brillante qui défie les traditions. Dès l'âge de 10 ans, elle fait une grève de la faim pour revendiquer le droit de lire. Enfant, elle est témoin de la répression sanglante à Tunis d'une manifestation favorable à l'émancipation des Tunisiens. C'est un épisode qui la marque durablement. Pendant sa carrière d'avocat, elle va défendre notamment des indépendantistes tunisiens et algériens. Elle devient ainsi l'une des principaux avocats des militants du FN. À partir des années 70, ce sont surtout ses engagements féministes qui marquent l'opinion publique. Elle fonde l'association Choisir la cause des femmes avec Simone de Beauvoir et Jean Rostand. Elle s'engage pour la légalisation de l'IVG. Elle fait partie en 71 des 343 signataires reconnaissant publiquement dans un manifeste avoir avorté. L'année suivante, elle défend à Bobigny une mineure accusée d'avoir eu recours à l'avortement après un viol, un procès retentissant qui aboutit à la relaxe de l'adolescente. Dans les années 80, c'est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale qu'elle poursuit son combat. Elle est élue députée apparentée PS, mais se dit ensuite déçue par François Mitterrand. C'est donc sur la liste de Jean-Pierre Chevènement en deuxième position qu'elle se présente aux européennes de 1994. Gisèle Halimi était également écrivain, auteur d'une quinzaine de livres. Son dernier ouvrage, Histoire d'une passion, évoquait sa relation avec sa petite fille et la vieillesse. Dans un entretien au Monde, elle avait déclaré à ce sujet « La seule crainte, si l'on est en bonne santé, est celle de la faiblesse intellectuelle. Or, je me sens en pleine capacité, plus riche même de l'expérience. »
Antoine Marette. Gisèle Halimi est un modèle pour toutes les féministes aujourd'hui. Réaction de Céline Picasse, la porte-parole d'Oser le féminisme. Elle restera pour toutes et tous un exemple, a estimé l'ancien président François Hollande. Emmanuel Macron, lui, salue une républicaine passionnée et une grande combattante de l'émancipation des femmes. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, de son côté, parle de l'immense chagrin d'avoir perdu une amie. Et son combat, dit-elle, est loin d'être terminé. Et Roselyne Bachelot.
Ce n'est pas parce qu'il y a des combattantes magnifiques comme Gisèle qu'il faut penser que les combats qu'elles ont menés sont gagnés définitivement. c'est à chacune, à chacun d'entre nous de se mobiliser. On a le sentiment que des forces adverses sont à l'œuvre dans la société, même dans les sociétés les plus démocratiques, celles qui ont instauré l'égalité, la lutte contre la discrimination au cœur de leurs textes fondateurs. Le monde est un monde globalisé où les forces de la haine, les forces de la discrimination sont toujours présentes. Donc l'exemple de Gisèle, ce n'est pas un exemple qui doit nous conduire à dire en quelque sorte « merci, tu t'es bien battu, le combat est gagné ». Non, au contraire, c'est ça le message de Gisèle. C'est « je me suis battu, je vous passe maintenant les outils du combat et vous devez le continuer ce combat après moi ». C'est la meilleure façon de me rendre hommage que de continuer ce combat.
Roselyne Bachelot, jointe par Rosalie Lafarge. Pour retrouver la voix et les combats de Gisèle Halimi, rendez-vous sur franceculture.fr avec une série d'entretiens à voix nue au micro de Virginie Bloch-Lenné. Et juste après ce journal, Emmanuel Laurentin consacrera son temps du débat d'été à la disparition de l'avocate et militante. Les policiers accusés par l'un de leurs collègues de racisme et de violence au dépôt du tribunal judiciaire de Paris, le parquet a décidé aujourd'hui d'ouvrir une enquête. Elle a été confiée à la branche judiciaire de l'IGPN. À Grenoble, le tribunal de commerce a validé cet après-midi la reprise de l'enseigne de chaussures André, feu vert à l'ancien PDG François Feijó. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
Une reprise certes, mais dans la douleur, avec la fermeture de plus d'un tiers des magasins et le licenciement de 188 salariés.
Effectivement, l'offre de François Feijó était de toute façon celle de la dernière chance, puisque les quatre autres dossiers de reprise avaient déjà été rejetés par le tribunal de commerce quelques jours plus tôt. Et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête des salariés, la liquidation judiciaire dès le 1er août. Mais l'offre et le profil ont su convaincre la justice. La stratégie du nouveau PDG, c'est de repartir modestement, ne conserver que les magasins à très fort potentiel, seulement 55 boutiques ainsi que 221 des 410 salariés. Mais François Feijó a l'avantage d'avoir les sympathies et la confiance d'une partie des salariés, gagnée entre 2005 et 2013 quand il était le patron avant le début du naufrage de l'entreprise. Marlon Zar est l'avocat du comité économique et social d'André.
Il y croit dur comme fer. La plupart des salariés d'André, en moyenne, il y a 17 ans d'ancienneté. André, c'était en quelque sorte la sécurité de l'emploi, ça fait partie de leur histoire. Et donc la plupart des salariés qui ont vécu l'aventure avec François Feijó, qui le connaissent, c'était l'unanimité pour eux. Quand on leur parlait du potentiel repreneur, c'était un vrai enthousiasme.
Et de l'enthousiasme, il en faudra surtout pour faire face à la crise qui touche tout le secteur de l'habillement. 12 années de dégringolade, 10 millions d'euros de pertes pour l'année dernière pour André et à venir les conséquences de la crise de la Covid. En revanche, la page Spartoo n'est pas tout à fait encore terminée pour les salariés. L'ancien propriétaire, quand il rachète André, il y a 2 ans, promet 3,5 millions d'euros dans le cadre de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Aujourd'hui, il n'en propose que 700 000 euros. Les syndicats d'André annoncent se retourner contre lui en justice.
Adrien Toffolet. La construction du réacteur ITER, un soleil artificiel, a démarré ce matin à Saint-Paul-les-Durances dans les Bouches-du-Rhône. 35 pays sont de la partie pour tenter de maîtriser la production d'énergie à partir de la fusion de l'hydrogène. Comme au cœur du soleil, ce n'est qu'en 2035 que ce réacteur expérimental pourrait atteindre sa pleine puissance. Sale temps pour les poissons migrateurs. 15 organisations de protection de la nature viennent de publier une étude fouillée. On y apprend que la population de ces poissons, comme le saumon, a baissé de 76% en presque 50 ans. Ce déclin spectaculaire s'explique par la surpêche, la pollution et les aménagements qui les empêchent de nager librement. Explication de Florian Kirchner, chargé de programme espèces à l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, l'une des 15 organisations qui a travaillé sur ce rapport.
Les poissons migrateurs, en fait, ont besoin de milieux de vie en eau douce et en milieu marin, puisqu'ils se reproduisent dans un milieu et ils vont grandir dans un autre milieu. Et en fait, c'est un peu la double peine pour ces poissons migrateurs, parce qu'ils sont confrontés aux menaces dans l'ensemble des milieux dans lesquels ils vivent. Donc ils subissent à la fois les menaces en eau douce et les pressions en milieu marin. Les pressions, c'est la destruction de leurs habitats. À cause de la canalisation des cours d'eau, par exemple, ça détruit les habitats dont ils ont besoin. Comme c'est des poissons migrateurs, ils ont besoin de pouvoir circuler. Or, la création de digues ou de barrages entrave leur circulation, donc leur périple migratoire. Et puis, ils sont aussi victimes de pêche. Alors, historiquement, il y a une pêche extrêmement forte sur beaucoup d'espèces. Aujourd'hui, elle est encadrée, mais il y a souvent du braconnage. En plus de ces menaces, il y a aussi une pollution. Une pollution à laquelle est sensible, par exemple, l'anguille européenne ou le saumon sont très sensibles à la pollution. Donc au total, ça fait une grande série de menaces qui font que, ben, en France, l'esturgeon européen est en danger critique, l'anguille est en danger critique également, le saumon est en situation quasi menacée. La situation au niveau mondial est alarmante. Heureusement, on sait que c'est des situations qui peuvent être réversibles, mais ça passe par une amélioration de la qualité des cours d'eau. Il faut restaurer ce qu'on appelle des cours d'eau vivants, ne pas endiguer toutes les berges, réduire les pollutions par exemple, et surtout encadrer également les prélèvements comme la pêche.
Florian Kirchner, joint par Véronique Robérotte. Le coronavirus n'a rien à voir avec une grippe saisonnière, mise en garde de l'OMS contre tout laisser-aller dans la lutte contre la Covid, car la pandémie se moque des températures et des saisons. L'Organisation mondiale de la santé explique que la pandémie est toujours en cours et la compare à une grosse vague qui va monter et redescendre un peu. La situation est particulièrement aiguë en Amérique du Sud ou encore en Iran. En Europe, les mesures sanitaires de plus en plus restrictives font leur apparition. Exemple à Anvers, en Belgique, où l'on retrouve Angélique Bouin.
Perché sur une roue de vélo, un artiste de rue fait son numéro sans vraiment y croire. Sur la grande artère piétonne, d'ordinaire bouillonnante, le 1m50 pour se croiser n'est plus un problème. Karine, 16 ans, est venue faire quelques boutiques avec sa copine, mais le cœur n'y est pas.
Je comprends, mais quand j'ai entendu ça hier, j'étais en colère, car on ne peut plus rien faire. Avec le couvre-feu en plus, c'est hyper frustrant, c'est super triste.
Abdel enfourche son vélo après avoir récupéré au pas de course un colis. Il fallait s'y attendre, dit-il. Personne ne faisait assez attention.
La dernière fois, j'étais au zoo, il y a des gens collés à côté de toi.
Vêtu d'un même t-shirt noir aux couleurs du magasin de vêtements pour lequel il travaille, deux autres jeunes garçons armés de bouteilles de désinfectant, masque jaune avec un smiley sur le nez, essaient d'attirer les clients chez leur patron. C'est pas simple, soupire l'un d'eux. Assis sur le comptoir de sa boutique de vêtements, cet autre commerçant, lui, n'en revient pas. Pour lui, la saison est foutue.
Je comprends bien qu'il faut faire quelque chose pour arrêter le virus ici en Anvers, mais selon moi, on a fait un lockdown sans faire un vrai lockdown. Les magasins, on peut ouvrir, mais on dit aux gens de ne pas venir à Anvers. Normalement, il y a des gens des Pays-Bas, des Allemands, c'est pas rentable.
Certains de ses amis commerçants ont, dit-il, tiré le rideau.
Angélique Bouin. Toujours au sujet du coronavirus, l'Organisation mondiale du tourisme a chiffré à 320 milliards de dollars les pertes pour le tourisme mondial de janvier à mai. En Malaisie, l'ancien Premier ministre Najib Razak a été condamné ce matin à 12 ans de prison par la haute cour de Kuala Lumpur. Il écope également d'une amende de 49 millions de dollars. Najib Razak a été jugé coupable d'avoir siphonné le fonds souverain 1MDB, censé contribuer au développement économique de la Malaisie. Le montant du détournement porte sur plusieurs milliards de dollars, ce qui avait permis à l'ancien Premier ministre de s'offrir des logements à Londres, New York ou Beverly Hills, un yacht, un avion ou encore des toiles de maître. En Turquie, quelques jours après la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, le plus haut responsable religieux du pays est sous le feu des critiques. Des opposants au pouvoir actuel l'accusent d'avoir insulté le fondateur de la République, Mustafa Kemal Atatürk, lors d'un sermon prononcé dans l'ancien musée. Le sujet est sensible, y compris pour le président Erdogan. À Istanbul, Anne Andlauer.
Il était inévitable que la transformation de Sainte-Sophie en mosquée, qui revenait à annuler une décision de Mustafa Kemal Atatürk, finissent par créer un débat sur la place du fondateur de la République dans la Turquie d'aujourd'hui. La polémique est née d'un sermon prononcé dans Sainte-Sophie par le chef de l'autorité des affaires religieuses. Ce dernier, Ali Erbaş, a rappelé que le sultan Mehmet le Conquérant avait confié Sainte-Sophie à une fondation pour qu'elle l'entretienne comme mosquée. « Dans notre foi, a-t-il poursuivi, une dotation est inviolable et brûle celui qui la touche. Celui qui piétine ses conditions sera maudit. » Le dignitaire religieux n'a pas cité nommément Atatürk, mais il était dans tous les esprits. Depuis son arrivée au pouvoir, Recep Tayyip Erdogan est accusé de vouloir effacer la figure d'Atatürk. Pour l'historien Etienne Kopo, spécialiste de la Turquie, le président cherche plutôt à désacraliser Atatürk.
Atatürk et le kémalisme sont un système qui fonctionne maintenant depuis 100 ans. Il ne peut pas supprimer ça comme ça du jour au lendemain. Il essaye, à mon avis, de remettre à sa place l'image d'Atatürk dans une chaîne de héros. Alors que les kémalistes voient dans Atatürk le révolutionnaire, l'initiateur, c'est qui a tout commencé. Lui, il replace Atatürk dans une chaîne de héros, c'est-à-dire Atatürk est celui qui conforte ce qu'a ce qu'a gagné Mehmet le Conquérant.
Deux partis d'opposition se revendiquant du fondateur de la République ont fustigé le sermon du chef de l'autorité des affaires religieuses et l'un d'eux a même porté plainte contre Ali Erbaş pour injure à Atatürk et atteinte à la Constitution. L'intéressé a nié toute offense.
Sophie Andlauer à Istanbul. La météo demain, beau et chaud, et vice-versa dans le sud du pays, très chaud même dans la vallée du Rhône, jusqu'à 39 degrés du côté d'Avignon. Partout ailleurs, quelques gouttes le matin et des éclaircies dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.